Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence ECHO en partenariat avec CapScience, le Centre de culture scientifique de Bordeaux, et la librairie Mola à Bordeaux aussi. Nous accueillons aujourd'hui Nathalie Cabrol. Nathalie Cabrol, bonjour. Bonjour. Alors, comme c'est l'usage dans notre cycle de conférences, afin de mieux vous connaître, nous vous avons proposé un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres du mot ECHO. Alors, si je vous dis E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement ?
Ça dépend de ce que vous appelez engagement. Si c'est par rapport au livre, je dirais que c'est un éveil en haut d'un volcan, très très haut dans les Andes, en réalisant que cet endroit qui me parlait de Mars il y a 3 milliards et demi d'années me parlait aussi de la Terre ici et maintenant, et qu'elle changeait rapidement.
C'est comme croyance. Quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère ?
Qui ait des idées reçues ?
H comme humain, quelle est la femme ou l'homme qui vous inspire le plus ?
Il y en a plus d'un, mais je dirais celui qui me touche le plus à l'heure actuelle et dans le métier que je fais, c'est évidemment Carl Sagan. Mais Cousteau est juste à côté, et Taziev aussi, et des femmes aussi.
Et O comme optimisme, qu'est-ce qui vous fait rester optimiste ?
L'humanité.
Parfait. Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice. Alors, pour compléter ce portrait, vous êtes directrice scientifique au centre de recherche Carl Sagan, tiens, on vient d'en parler, à l'Institut SETI en Californie. Et vous êtes astrobiologiste spécialisée en planétologie. Vous êtes également plongeuse de l'extrême. Nous vous avions reçu ici même pour un échange qui était passionnant déjà autour de votre dernier ouvrage qui était À l'aube de nouveaux horizons. Alors là, vous venez de publier aux éditions Julliard l'ouvrage Inséparable, qui explore les liens intimes entre l'habitabilité dans l'univers, l'humanité, son environnement et son futur en lien avec la technologie. Un livre fascinant, en tout cas moi je l'ai trouvé absolument fascinant, qui nous emmène dans un voyage vertigineux à travers le temps et l'espace à la recherche de la vie et de son avenir. Alors on a 45 minutes devant nous pour explorer cette question, c'est très court, mais on va quand même avoir le temps d'évoquer beaucoup de choses que j'imagine passionnantes. Alors avant de revenir sur Terre, parce qu'on va beaucoup parler de la Terre, et c'est tout à fait logique pour une astrobiologiste. Avant de revenir sur Terre, vous prenez de la hauteur en quittant nos échelles terriennes de temps et d'espace. Vous nous invitez tout d'abord à changer d'échelle spatiale pour explorer la question de l'habitabilité de l'univers. Alors, question fondamentale pour répondre à la question qui nous habite tous, sommes-nous seuls ? Que sait-on de l'habitabilité de l'univers ?
L'habitabilité de l'univers, c'est un petit peu... Je dirais, on va ramener l'échelle un petit peu plus près quand même. On peut parler de l'habitabilité d'un système planétaire. On a commencé avec la nôtre. L'idée dans le livre, c'est de faire tomber un petit peu les idées reçues et de donner les faits aux gens. L'habitabilité dans un système planétaire, c'est par rapport à la vie telle que nous la connaissons, nous. Ça veut dire que c'est une zone, c'est une distance entre dans un système planétaire d'une étoile à ce système planétaire où l'eau peut rester liquide à la surface d'une planète. Pourquoi l'eau ? Parce que ça nous sert pour nous dans le métabolisme de la vie terrestre. Mais c'est pas que ça, l'habitabilité. On a appris avec le temps, avec l'exploration planétaire, justement, qu'on peut être à l'intérieur de la zone habitable d'un système planétaire, mais ne pas être habitable. Mars, à l'heure actuelle, est dans la zone habitable du système solaire. Elle l'est, et elle est juste à la frange, mais la raison pour laquelle elle n'est pas habitable, c'est qu'elle a perdu son atmosphère parce qu'elle a perdu son champ magnétique, mais pas parce qu'elle ne pourrait pas, si elle avait une atmosphère, garder de l'eau liquide à sa surface. Et vous pouvez être complètement à l'extérieur de la zone habitable, mais avoir un environnement habitable. C'est le cas de ces petites lunes comme Europe, comme Encelade, ou peut-être Titan même, qui simplement ont les 5 ingrédients nécessaires à la vie telle que nous la connaissons.
Des lunes de notre système solaire.
Oui, qui sont Europe et Encelade. Et donc, on espère, dans les océans qui se trouvent sous la surface, alors de ces petits mondes, que la vie est possible pour des formes de vie qui ne sont pas complètement étrangères à celles qu'on connaît. Mais l'habitabilité, si vous voulez, c'est aussi quelque chose qui n'est pas fixe dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir. En astrobiologie, on parle de cette zone habitable, on parle de l'habitabilité et des seuils d'habitabilité. Ce qui va faire varier l'habitabilité dans une planète, c'est la vie et de son étoile. C'est-à-dire qu'une étoile comme le Soleil, elle a une jeunesse, elle a une enfance, une jeunesse, un âge adulte, et puis elle a une vieillesse et une mort. Et pendant toute cette période-là, eh bien, l'étoile, elle change de luminosité. Et en fonction de son changement de luminosité, la quantité d'énergie qui arrive à la surface d'une planète change, bien évidemment. Et donc, cette espèce de position où l'eau liquide peut rester à la surface d'une planète va varier en fonction de cette luminosité. Et ce que vous voyez, c'est par exemple l'exemple de Vénus. Au tout début de l'histoire du système solaire, il y a 3 planètes habitables dans le système interne, dans le système solaire. Vénus, la Terre et Mars, et toutes les 3 ont des océans. C'est quand le Soleil est très très jeune. Quand il commence à rentrer dans sa séquence principale, c'est terminé. Vénus est trop proche, il y a un effet d'emballement, et ça devient Vénus telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Pas habitable.
Plus habitable.
Mars est habitable.
Oui, mais il faut l'équiper. Et on ne peut pas aller se promener sur Mars comme ça. Vous auriez tout un tas de problèmes, en fait, qui sont liés à l'absence de champs magnétiques et d'autres choses. Et pour la Terre, bien, on est en train d'essayer de faire tout ce qu'on peut pour essayer de la faire basculer dans la zone non habitable. Pour les humains.
Tout seul, en plus.
Tout seul, comme des grands.
Ça, c'est bien.
Ouais.
Alors, quand on parle d'habitabilité, j'ai juste, c'est une question, c'est... Vous dites, vous avez tous dit, il faut de l'eau. Moi, quand j'essaie d'expliquer ce que je peux aux gens, qu'on parle d'habitabilité, d'extraterrestres, vous savez, ils me disent, oui, de toute façon, on est incapable d'imaginer d'autres formes de vie qui seraient tellement différentes. Et pourtant, vous avez commencé par dire, il faut de l'eau.
Il faut de l'eau pour la vie, j'ai dit, telle qu'on la connaît. Ce qu'il faut à la vie, c'est un solvant pour faire en sorte que les cellules fonctionnent. Bien évidemment, on parle de cellules. C'est aussi là quelque chose qui est comparable à ce que nous connaissons, nous, comme forme de vie. Et c'est la discussion qu'on avait tout à l'heure. C'est la différence entre parler de l'origine de la vie et de ce que la vie peut être et la nature de la vie, le processus du vivant. Et ça, c'est très, très différent. Quand on parle de la nature de la vie, on sort complètement des contraintes de la vie telle qu'on la connaît, de la biochimie telle que nous la connaissons. Alors, bien entendu, même la vie telle qu'on ne la connaît pas, peut-être qu'il y a des solvants qui sont des hydrocarbures liquides. Ça nous intéresserait beaucoup, parce qu'il y a Titan, par exemple, qui a des mers d'éthane et de méthane liquides. C'est exactement le même paysage que sur Terre. Ça ressemble à tout ce qu'on connaît, et pourtant, c'est rien de ce qu'on connaît. Imaginez d'avoir des pluies d'hydrocarbures avec du méthane liquide, de l'azote, pas de l'azote liquide, mais de l'éthane et du méthane liquide, qui tombent, qui forment des rivières de méthane et d'éthane liquide. Et vous avez des magnifiques galets. C'est la première chose que Huygens a filmé quand il est arrivé à la surface. C'est des galets tout ronds. Ils ont subi exactement les mêmes processus d'émoussage dans les torrents, sauf que c'est des torrents d'hydrocarbures liquides et que les galets en question, eh bien, il fait tellement froid que la chose la plus dure sur Titan, c'est de la glace d'eau. Donc ces galets-là et les montagnes sur Titan, c'est de la glace d'eau. Et les volcans, eh bien, c'est de la lave d'eau. Parce que l'eau, c'est la chose qui peut être la plus chaude sur Titan. C'est très très froid là-bas. Donc c'est quelque chose, vous regardez, il y a des vagues, il y a des mers, il y a des lacs, il y a des rivières, il y a des torrents, il y a des montagnes. Vous pouvez tout expliquer. Il y a même de la pluie, et quand il pleut, c'est des molécules organiques. C'est pas de la pluie telle que vous la connaissez. Les dunes qui sont formées à la surface de Titan sont des dunes de molécules organiques. Et c'est chez nous, ça. C'est pas quelque part dans Alpha Centauri. C'est dans notre jardin.
Et c'est juste une phrase dans votre livre, vous dites qu'on va y envoyer des drones sur Titan.
On va envoyer Dragonfly, qui est la libellule. C'est une grosse libellule. Alors c'est un rotorcraft qui est de la taille du rover Perseverance. C'est quelque chose qui fait entre 1 et 2 tonnes, avec 8 rotors. Et Titan, c'est parfait pour utiliser ce genre d'engin. Autant faire voler un hélicoptère sur Mars, c'était véritablement un test technologique, parce qu'il n'y a pas du tout d'atmosphère. Enfin, il y a de l'atmosphère, mais 160 fois moins que sur notre planète. Mais sur Titan, il y a une pression de 1,5 bar. C'est-à-dire que c'est un petit peu supérieur à la pression terrestre. C'est formidable, Titan. On peut y faire de l'exploration de la même manière qu'on en fait sur Terre. On peut faire voler des avions, voler des ballons. On peut faire voler des drones. On pourrait utiliser des sous-marins, des bateaux, des rovers. Les rovers, c'est peut-être ce qui est le plus délicat, parce qu'il fait tellement froid, en fait, que là, mécaniquement, ce serait peut-être un petit peu difficile. Mais oui, c'est un monde particulier.
On va revenir sur notre planète. La vie est née, a muté. Mais alors, vous insistez très fortement sur le concept de coévolution, où la planète et la vie sont intimement liées dans leur histoire, quoi. Et si on reprend l'histoire de la vie sur Terre, comment se manifeste cette coévolution? Vous pouvez nous reprendre, parce qu'en fait, on est à un moment particulier de notre histoire, mais qui est inscrite dans une histoire qui est
4 milliards d'années.
Quoi.
Oui, 4 milliards et demi d'années.
De coévolution.
Ça, ça fait partie des grandes questions de l'astrobiologie. Et pas seulement l'astrobiologie, même les biologistes qui s'occupent uniquement de la vie sur Terre n'ont pas une définition de la vie. On ne sait pas ce que c'est que la vie. On a 140 définitions pour la vie. Vous pouvez en avoir demain 150 parce qu'à chaque fois que vous attaquez le problème, vous le voyez d'une autre façon. En fait, ce qu'on a, ce sont des descriptions. On a véritablement des descriptions de ce que la vie est sur Terre. La seule définition est une définition pour l'exploration quand on la cherche ailleurs. On s'est donné une définition de travail et on sait que c'est une définition de travail. Et on dit que c'est un système chimique indépendant capable d'évolution darwinienne. Alors ça veut simplement dire qu'elle est capable d'évoluer et de s'adapter aux changements qui peuvent exister. Et moi, ce qui me fait toujours sourire, c'est de dire de demander aux gens, j'ai dit, est-ce que vous connaissez quoi que ce soit qui soit indépendant, chimiquement indépendant sur notre planète? Et je dis aux gens, le meilleur exercice pour essayer de prouver ça, que vous êtes complètement indépendant, c'est de vous arrêter de respirer pendant 10 minutes. Vous allez voir ce qui se passe. Mais c'est quand même une définition. On a besoin d'une définition pour y aller, pour explorer. Mais de fait, aujourd'hui, tout le monde s'accorde de dire que la vie n'est pas apparue sur Terre. C'est pas un coup de baguette magique. Un jour, il y avait la vie. Le lendemain, il y avait pas la vie, je veux dire. Et le lendemain, il y avait la vie. On est d'accord qu'il y a une transition entre le monde physique et prébiotique, c'est-à-dire avant la vie, et quelque chose qu'on définit comme la vie. Et si c'est une transition, on n'est pas bien sûr où on doit mettre la limite, en fait. Est-ce que ça a même un sens de mettre une limite où que ce soit? Et donc, c'est un petit peu gênant quand on essaie de comprendre l'origine de la vie. C'est ça, ça nous gêne beaucoup. Il y a une autre école de pensée aujourd'hui qui d'abord dit qu'essayer de définir la vie, c'est un peu s'enfermer dans des boîtes et ça nous contraint dans justement ces problèmes d'environnement et de biochimie, essayer de comprendre la vie telle qu'on la connaît, et que c'est peut-être plus favorable d'essayer de comprendre la vie comme un processus, c'est-à-dire qu'est-ce que la vie fait. Et on en parlait tout à l'heure, c'est de dire en fait que la vie organise l'environnement autour d'elle, l'information et l'énergie de manière complètement différente de ce que nous qualifions de non-vivant. Alors ça nous permet de nous débarrasser de tous les problèmes biochimiques. Ça veut dire que quelle que soit la nature de la vie ailleurs, qu'elle soit fondée sur un solvant qui soit du méthane liquide ou de l'eau ou je ne sais quoi, eh bien le vivant a quand même une thermodynamique qui est différente. Donc aujourd'hui, on pense aller dans cette direction, c'est quelque chose qui nous pousse un petit peu plus en avant. Et là où c'est intéressant, c'est que du moment où la vie émerge, ce que va faire la planète sur laquelle la vie émerge, c'est qu'elle va donner le cadre physique et chimique, elle va donner les contraintes physiques et chimiques pour le type de vie qui peut apparaître. Sur Terre, vous n'avez pas une vie, par exemple, qui pourrait survivre à 15 bars de pression atmosphérique, ou avec une gravité qui serait un petit peu plus importante, il y a des cadres physiques qui sont bien particuliers. C'est ce que la planète, elle vous donne. Mais on s'est rendu compte que lorsque la vie a émergé, elle a tout changé. Elle a absolument tout changé.
La vie a changé le cadre.
La vie a absolument transformé et aménagé l'environnement. Et c'est une espèce de danse intime depuis 4 milliards d'années où l'environnement, lorsqu'il change à cause du climat, à cause d'événements catastrophiques qui peuvent être de l'environnement ou qui peuvent être simplement des événements cosmiques, par exemple, eh bien, la vie est obligée de s'adapter, elle change. Mais il y a 2 milliards et demi d'années, la vie, elle a fait une transformation absolument phénoménale qui est de prendre le CO2 de l'atmosphère de la Terre primitive et de l'utiliser pour son métabolisme et de rejeter de l'oxygène. Alors pendant 200 millions d'années, l'oxygène a été fixé au fond des sédiments dans les océans. C'est pour ça qu'on a des magnifiques strates géologiques aujourd'hui très riches en fer qui marquent cette époque il y a 2 milliards d'années. Mais à un moment donné, il n'y avait plus de quoi contenir cet oxygène dans les océans. Et donc, il a commencé à s'échapper dans l'espace. Et l'air que vous respirez aujourd'hui n'est pas dû à la physique et à la chimie de la Terre, mais à la présence de la vie il y a 2 milliards d'années. Donc, mais c'est donc cette chose-là. La vie et l'environnement se transforment mutuellement. Ce qui veut donc dire que la vie sur Terre est issue de cette propre coévolution de cette planète, qu'une espèce extraterrestre sera le produit d'une coévolution avec un autre environnement.
Et les limites de cette coévolution, est-ce qu'il y en a ?
Bien sûr. C'est différent de dire qu'il y a une limite de coévolution et une limite à la vie, parce que on peut avoir la limite de coévolution, admettons, de l'espèce humaine avec sa planète. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais il y a plus que les humains, par exemple, sur Terre. Il y a des espèces qui sont capables de résister. On l'a vu, il y a des époques dans l'histoire de la Terre où la Terre est beaucoup plus chaude ou beaucoup plus froide qu'à l'heure actuelle. Et on a des extinctions de masse, quelquefois, qui arrivent jusqu'à 90% de toute la vie sur Terre. Et pourtant, vous avez la vie qui continue et qui est la base de la génération suivante. Donc, personnellement, quand je regarde l'histoire de la Terre et qu'on regarde les extrémophiles dans les environnements extrêmes, etc., je pense que le plus difficile, une fois que la vie a démarré quelque part, c'est de l'arrêter. Ensuite, le type de vie qui existe à un moment donné sur une planète, il est lui aussi adapté à ce moment-là dans l'histoire de cette planète. Il y a des espèces qui disparaissent par accident, et généralement on a des grandes extinctions, etc., mais il y en a d'autres qui simplement disparaissent parce qu'il y a des impasses d'évolution.
Donc là, vous avez parlé d'augmentation de température, de CO2. Alors, c'est des choses qu'on connaît bien, puisqu'on nous parle tout le temps de changement climatique. Est-ce qu'on pourrait pas dire, genre... Bon, non, en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est business as usual, quoi.
Ouais,
qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous disent « Mais non, c'est déjà arrivé 10 fois, 20 fois, c'est pas grave. »
Oui, c'est arrivé des tas de fois, sauf que toutes les autres fois, c'était pas de notre faute. Mais j'aime pas même le mot « faute », parce que je dirais simplement « responsabilité ». La faute, c'est vraiment un jugement, déjà. Ce que je dis, c'est qu'on est une espèce qui est adolescente, une civilisation qui est adolescente, qui a des technologies qui... aime s'amuser avec ces technologies, les produire, mais qui comprend encore pas très bien les conséquences de ces choses-là. Or, la planète, elle commence à nous rappeler à l'ordre. Il n'y a absolument aucun doute sur la responsabilité de l'espèce humaine dans le changement climatique actuel. Et n'importe qui vous dit le contraire, c'est soit par intérêt, soit par ignorance. Mais les arguments
beaucoup
qui sont...
Beaucoup de gens qui ont des intérêts et qui sont ignorants.
Pardon ?
Il y a beaucoup de gens qui ont des intérêts ou qui sont ignorants, ou les deux.
Oui, oui, tout à fait. Ça, je dis pas le contraire. Vous avez, j'ai aussi parlé de la thermodynamique de l'argent dans ce livre-là. Mais c'est simplement les signatures du changement climatique humain, elles sont partout. Les arguments que je reçois en général, c'est de dire oh, aujourd'hui, il y a beaucoup de volcans en activité. Alors, d'une manière simple, quand on regarde un volcan, ça envoie beaucoup de gaz dans l'atmosphère. Et quand vous regardez la lave, c'est chaud. Donc, ça doit être la faute des volcans. Il y a 70 volcans en activité. Là où je suis d'accord, où les volcans ont changé le climat dans l'histoire de la Terre, il y a deux épisodes. C'est les trappes du Décan et les trappes de Sibérie. Mais c'était aussi une sacrée éruption volcanique. Elle a duré 600 000 ans pour une et un peu plus d'un million d'années pour l'autre. Pratiquement sans interruption. Là, oui, vous modifiez une planète. Là, oui. Mais une éruption normale... C'est pas véritablement d'abord beaucoup d'énergie qui est dégagée, même si à l'échelle humaine ça paraît beaucoup. Je vais vous donner un exemple. D'abord, il y a quelque chose qui est complètement contre-intuitif. Vous voyez ce volcan qui envoie beaucoup de gaz dans l'atmosphère. Alors effectivement, il y a des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone et le méthane. Mais les volcans, ils envoient aussi dans l'atmosphère des poussières, des aérosols, des cendres, etc. La première chose que ces aérosols font dans l'atmosphère, c'est de bloquer l'énergie du soleil. Et donc, la première conséquence des éruptions volcaniques, c'est de refroidir le climat. C'est pas d'augmenter les températures, c'est de les refroidir. Et on a des exemples partout dans le monde, et spécialement avec le Pinatubo, qui était une éruption assez phénoménale, où vous avez des récoltes qui n'ont pas pu avoir lieu pendant 4 ou 5 ans parce qu'il faisait trop froid. C'était aussi simple que ça. Et c'était pas seulement localisé, il y avait aussi, puisque l'atmosphère est globale, des réactions dans le monde entier. Une autre chose qui est aussi peut-être contre-intuitive, c'est de se dire qu'on voit énormément de gaz dans des éruptions, c'est spectaculaire. Une des plus grosses éruptions de ces dernières 40 ans maintenant, c'est celle du Mont-Sainte-Hélène, pas tellement loin de chez moi, où il y a eu environ, je ne sais plus combien, de dizaines de millions de tonnes de gaz carbonique qui ont été éjectés dans l'atmosphère en 9h30. En 9h30, c'est énorme, c'est gigantesque, encore une fois, à l'échelle humaine. C'est 2h30 de l'activité humaine par jour. Ce n'est pas les volcans qui sont responsables. Il y a une autre source d'information aussi qui est très importante, c'est que la nature utilise tous les atomes qu'on a à disposition, le carbone en étant le cycle du carbone, comme vous le savez, quelque chose d'important pour notre planète. Mais ce carbone-là, il a une signature particulière. On a des atomes, ils n'ont pas tous la même signature. On appelle ça des isotopes. Il y en a qui en ont 13, il y en a qui en ont 14, il y en a qui en ont 12. On sait la signature de la vie, c'est plutôt du 12 parce qu'elle a tendance à aimer les atomes qui sont plus faciles à casser. La vie, c'est paresseux. Alors, si elle peut utiliser le carbone qui est facile à casser pour se nourrir. Donc, généralement, quand la vie est présente, on a une abondance d'un certain type de carbone. Dans l'atmosphère, le cycle du carbone, il est connu pour un certain isotope. L'activité humaine est connue pour une autre signature. Les molécules qu'on fabrique avec notre activité, elle est connue pour cette signature-là. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est la transformation de la signature de l'atmosphère terrestre, du carbone naturel, par le carbone des humains. En plus, il y a vraiment quelque chose de très gênant, c'est qu'on a remarqué désormais que l'augmentation de la température est très bien calée sur le début de la révolution industrielle. Le problème, c'est pas de dire... C'est la faute des humains. Le problème, c'est de dire, OK, on a affaire à une planète, on a une technologie, il n'est pas question de retourner à l'âge de pierre pour pouvoir vivre en harmonie avec cette planète, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour rétablir un équilibre, pour que la civilisation humaine puisse perdurer dans l'avenir, tout en gardant cette technologie? Et ça, c'est l'équation qu'on a à résoudre aujourd'hui.
Parce qu'on est d'autant plus, pas responsable, mais en tout cas en responsabilité, qu'on est rentré dans l'anthropocène, alors ça veut dire l'ère de l'humain, l'ère de l'être humain.
Oui, encore une fois, là, j'ai discuté de cette chose-là. De manière évidente, on peut dire oui, l'humain est un marqueur très important aujourd'hui. Dans les strates géologiques, quand on parle de l'anthropocène, c'est par opposition au pléistocène. C'est donc les couches géologiques qui existent sur Terre. Effectivement, le mot lui-même dit ce que ça veut dire. Mais il y a quand même un problème là-dessus. Il y a deux problèmes, en fait, et j'en ai parlé aussi. Je ne suis pas tellement fan de l'idée de mettre l'anthropocène. Non pas parce que je ne pense pas qu'on soit responsable, encore une fois, je viens de le dire, je pense que la responsabilité nous appartient. Mais le problème, c'est que les gens commencent à se bagarrer sur l'idée du mot au lieu de se bagarrer sur la question et essayer de résoudre le problème. Ils s'attachent plutôt à est-ce que c'est bien, est-ce qu'on devrait parler des humains dans les couches géologiques, etc. Et l'autre, en fait, c'est que quand on regarde l'humanité, il y a des tas d'humains qui ne sont pas responsables pour ce qui se passe aujourd'hui. Il y a en particulier des tas de cultures qui n'ont pas d'impact au niveau de la planète, qui essayent toujours aujourd'hui de garder une relation avec la nature. Alors pourquoi faire porter le chapeau à tout le monde et les inclure là-dedans, alors qu'en fait, la responsabilité, c'est probablement simplement 25%, si je parle à moitié anglais, 25% de la population humaine qui est responsable, ou en tout cas qui utilise 90% des ressources humaines naturelles. Et donc, c'est aussi pour ça. Je dirais que c'est un petit peu... je ne suis pas mécontente que pour le moment, ça a été repoussé. Je pense que c'est simplement une note dans le... Ça distrait un petit peu l'attention, à mon avis.
Anthropocène, le concept d'anthropocène.
Oui, ouais. Je ne suis pas contre de dire qu'on est responsable, mais pas tous les humains sont responsables.
Et par contre, tous les humains, l'humanité, l'espèce humaine est une singularité. Qu'est-ce qu'elle a comme singularité dans l'histoire de cette coévolution entre la vie et...
La singularité, c'est déjà nous, on est capable de toute cette technologie qu'on voit autour de nous. Mais la singularité, alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que c'est pas la première fois que la vie détruit l'environnement, enfin, pas détruit, mais transforme l'environnement à un point qu'elle entraîne un désastre écologique. Le premier, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la création de cette atmosphère qu'on respire aujourd'hui. Avant que les cyanobactéries, les petites algues bleues et vertes transforment l'atmosphère de la Terre il y a 2 milliards d'années, le métabolisme de la vie sur Terre était basé sur l'utilisation de la chimie pas du soleil, c'était pas de la photosynthèse, c'était de la chimiosynthèse autour de centres hydrothermaux dans des volcans, que ce soit au fond des océans ou à côté de volcans sur les continents, quand ils ont commencé à se former. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Donc ça a décimé 90% de la vie sur Terre, mais c'est aussi responsable de la biosphère qu'on connaît aujourd'hui. Ça a permis aux algues bleues et vertes de perdurer. Elles sont toujours là aujourd'hui, pratiquement exactement sous la même forme. Ça fait partie des producteurs primaires qui continuent de fabriquer de l'oxygène et qui continuent aussi de produire la base de la chaîne alimentaire sur la planète. On est probablement, à mon sens, si je ne me trompe pas, la seule espèce dans l'histoire de la vie sur Terre qui est en train de détruire l'environnement qui lui est favorable. C'est ça notre singularité.
Notamment les producteurs primaires.
Entre autres, les producteurs primaires, c'est le plus dangereux. Parce que l'écosystème, si on veut parler de la biosphère, c'est-à-dire de tous les environnements habitables et là où la vie se trouve sur Terre, admettons qu'on en parle comme un grand écosystème. Cet écosystème, il est basé sur différents niveaux. Et c'est exactement comme un château de cartes. À la base de cet écosystème, vous avez les producteurs primaires, c'est-à-dire des organismes qui vont produire l'énergie, cette fameuse énergie dont on parlait, et qui vont aussi produire de l'oxygène, qui est important pour tout le monde, puisqu'on a une biosphère qui est basée sur l'oxygène. Cela, c'est la base de la pyramide. Vous avez donc les plantes, en général, ou les algues, dans les océans, c'est les coraux, qui font un petit peu cette fonction aussi. Grâce à cette base, vous avez des herbivores qui mangent les plantes. Au-dessus, dans l'autre niveau, vous avez les carnivores qui mangent les plantes, qui mangent les herbivores, pardon. Et au-dessus, vous avez les omnivores. Et puis, à cause de toute cette technologie et de cette évolution, il y a les humains qui sont un petit peu par là. Et alors, si vous regardez bien ce château de cartes, si on retire les humains en haut, votre château sera peut-être un petit peu moins joli. Mais bon, ils tiennent beaucoup quand même. Mais si on commence à retirer la base de votre château de cartes, les producteurs primaires, qu'est-ce qui se passe? Le château, il s'écroule. C'est la chaîne alimentaire de la planète. Voilà pourquoi il y a une très grande insistance aujourd'hui à replanter des forêts, à remettre les écosystèmes en route, parce qu'en fait, notre planète, elle a une capacité de rebond qui est absolument phénoménale. J'en ai parlé aussi, les Nations Unies sont très impliquées dans des initiatives qui vise à replanter certaines forêts, certains biomes, et à en créer d'autres. Le seul problème avec les nouveaux qu'on crée, c'est qu'on sait très bien qu'il va y avoir des conséquences à ça. On ne sait pas exactement ce qu'elles vont être. Mais quand on crée une forêt quelque part où il n'y en avait pas avant, certainement, on va créer des déserts dans des endroits où il n'y en avait pas avant, parce que ça change le climat de manière globale. Mais on en a besoin, on a absolument besoin. La forêt amazonienne est complètement détruite, c'était le poumon de la Terre. Et aujourd'hui, au lieu d'absorber le carbone, elle commence à en émettre. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe absolue, parce que il y a moins d'oxygène, elle produit moins d'oxygène. Voilà pourquoi on construit la muraille, le mur vert en Afrique. J'ai appris récemment que les Chinois font la même chose en Chine, en train de construire une muraille verte. Mais tout le monde se pose des questions de savoir quelles sont les conséquences que ces nouvelles forêts vont avoir sur le climat en général, qui est probablement une bonne conséquence en ce qui concerne de la baisse des températures et de l'absorption du CO2, mais probablement aussi créer un changement climatique auquel il faudra s'adapter. La leçon dans tout ça, c'est que pour arriver à préserver l'environnement qui nous est favorable, on est aujourd'hui acculé à devenir des apprentis sorciers avec notre propre planète.
Ce qui fait de nous une singularité.
Entre autres, ouais. Oui.
Alors, l'un des points, et vous l'avez évoqué plusieurs fois, le mot est revenu plusieurs fois, l'un des points importants de votre ouvrage est la question de l'évolution de la coévolution, qui était une coévolution humain-environnement, dont vous dites qu'elle devient une coévolution humain-technologie. La technologie prend une place très importante dans le diagnostic que vous faites de la situation dans laquelle la vie sur Terre se retrouve. Quels sont les signes de basculement de cette coévolution où on est habitué à être plus proche de la nature et qu'on a basculé de coévolution?
Oui. Alors, là encore, c'est un constat. Hein. C'est simplement un constat. La chose qui est très, très intéressante, c'est que les humains sont petit à petit, sortis de la nature. Ça fait pas tellement longtemps qu'on est véritablement sortis de la nature. Mais auparavant, il y a très, très longtemps, les humains étaient nomades. Et ils cheminaient à la surface de la Terre en suivant la nourriture, les saisons, etc. C'était des groupes nomades. Et puis, il y a environ 10 000 ans, ils se sont fixés quand ils ont commencé à faire de l'agriculture. Donc, l'agriculture a commencé à permettre aux humains de rester sur place parce que là, la nourriture revenait chaque année. Ils n'avaient plus besoin de se déplacer. Et donc, dans ces régions où l'agriculture était possible, on a commencé à construire des petits clans, des petits villages. Et la vie s'est organisée de cette manière-là. Alors, là où les humains ne sont pas véritablement sortis de la nature, même aujourd'hui, c'est si on regarde la structure de nos villes et la structure des grands systèmes urbains humains, ils sont complètement calqués sur la structure naturelle, que ce soit la structure de l'écosystème ou même la structure d'une cellule, d'un organisme. Notre ville, votre ville ici, comme n'importe quelle ville dans le monde, est exactement structurée comme une cellule. Il y a des endroits où on transfère l'information, il y a des endroits où on amène les déchets, où on enlève les déchets, il y a des endroits où il y a du transport, où, etc., etc. Il y a des endroits où on s'alimente, il y a des endroits où on transforme l'alimentation, ce qui est le métabolisme. On retrouve exactement la même structure. J'ai décrit ça en détail parce que ça me paraît tellement, tellement merveilleux.
Et tellement contre-intuitif, on est très fiers de nos villes, puis en fait, vous dites, c'est totalement naturel. Si
c'est complètement décalqué, et en fait, c'est en nous. On le disait, il y a des schémas répétitifs de la vie, et donc, l'organisation de nos villes, c'est exactement la même organisation que celle des cellules. Mais, par contre, ce qu'on a complètement oublié dans ce technosystème qu'on a construit, c'est qu'on a le sentiment qu'on peut vivre indépendamment. Vous vous rappelez ce système indépendant dont on a parlé, à l'intérieur de ce système, et on a vraiment le sentiment qu'on vit dans ce système et pas autre chose, parce que qu'est-ce qui se passe? Vous vous levez le matin, vous prenez le métro ou le bus, vous allez au travail, vous êtes enfermé toute la journée, vous retournez à la maison, qui, par ailleurs, est une autre petite cellule, avec aussi des endroits où on transporte l'information, où on transforme l'alimentation, etc., etc. Et dans les fêtes, il y a très peu de place pour cette connexion qu'on avait avec la nature. Mais par contre, si on regarde comment on peut maintenir un technosystème, c'est ce que je dis toujours aux gens, n'importe quel objet que vous possédiez, n'importe quel vêtement que vous portiez, ça a été pris à la nature. C'est pas quelque chose qui est apparu comme ça dans l'air. J'avais cette conversation hier avec une personne, elle me présentait un crayon de papier et elle me disait, qu'est-ce que vous voudriez dire aux gens? Comment on peut faire comprendre cette relation qui existe toujours avec la nature, que le technosystème ne peut pas survivre sans prendre soin de la nature, parce qu'il en dépend? Ben, j'ai dit, c'est assez facile. On ne va pas dire aux gens qu'on ne peut pas utiliser un crayon de papier. On en a besoin, on l'utilise, c'est normal. Mais si vous prenez ce crayon de papier, qu'est-ce qu'il a fallu pour le faire? Il a fallu détruire un arbre, il a fallu utiliser de l'énergie pour pouvoir le tailler, etc., etc. Et vous pouvez faire la même chose pour chaque chose qu'on utilise dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on les utilise, mais qu'il faut qu'on ait conscience du poids que ça représente de maintenir un technosystème. Et donc, la contrepartie dans tout ça, c'est que on a pris l'habitude de se dire, si je prends mon téléphone, c'est une même si quelquefois j'ai un petit peu exagéré dans le livre avec les téléphones, mais c'est une belle invention. Ça nous permet d'être connectés à tout moment. C'est quelque chose qui est important pour la vie. Et mais est-ce qu'on a besoin de changer de téléphone tous les ans? C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a une espèce de perte de notion, et ça, c'est aussi cette notion de ce que la planète peut fournir par an pour maintenir ce technosystème. Et ça, c'est quelque chose qui fait très, très peur, que les gens, en général, n'ont pas idée.
C'est le jour du dépassement.
Le jour du dépassement.
On est où maintenant, jour du dépassement, mi-août?
Fin juillet.
Fin juillet.
Fin juillet.
Oh, c'est bientôt, c'est chouette.
C'est-à-dire qu'on vit à crédit sur notre planète. Sans grande idée de rembourser quoi que ce soit. Et la planète, elle n'est pas extensible. Et en plus, quand on y pense, si on se disait c'est pour toute l'humanité la même chose, mais ce n'est pas vrai. C'est 25% de l'humanité, pratiquement, qui crée ce déséquilibre. c'est pas 100% de l'humanité. Donc il y a tout un tas de déséquilibres à l'heure actuelle où il y a une espèce d'ivresse de notre capacité à créer, de notre capacité pour ceux qui peuvent créer et qui créent des technologies de bénéficier de ce que cette technologie elle apporte. Mais on a un petit peu oublié le lien qui reste le nôtre avec la nature pour créer, pour prendre les matières premières pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et malheureusement, les ressources, elles sont limitées. Elles sont limitées. Et c'est pas en disant que ça n'existe pas, que ça n'est pas vrai, etc. On va arriver à un moment où c'est simplement plus possible. Donc, encore une fois, c'est pas un jugement, c'est une prise de conscience. Et ce livre, comme vous le disiez, le mot politique, il n'y existe pas dedans. Je suis comme tout le monde, j'en ai assez de la politique. J'en ai assez d'entendre parler du changement climatique dans des termes qui n'ont rien à voir avec la clé de ce problème. Le changement climatique, c'est devenu une question politique parce qu'il y a des intérêts économiques en jeu. Mais ça n'a rien de politique. C'est des faits, c'est de la physique et de la chimie. Et la chaleur que l'on voit aujourd'hui, l'augmentation de la chaleur, c'est simplement, j'ai pris l'exemple du professeur de chimie qui vous explique le premier jour de votre cours de chimie que ce que vous avez à gauche de l'équation, vous allez retrouver à droite de l'équation, il n'y a rien à faire, c'est comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, ben, on injecte des choses à gauche et on les retrouve à droite. Et la planète, elle se rééquilibre. Maintenant, est-ce qu'elle va se rééquilibrer en un environnement qui nous est favorable ou pas? C'est toute la question.
Quoi qu'il arrive, oui, j'entends parfaitement, mais j'aimerais qu'on vienne sur cette technologie. Parce qu'en fait, vous assumez dans le livre, dans l'exercice de pensée que vous menez tout au long du livre, vous assumez l'idée qu'en fait, on en est devenu dépendant. Voilà, on est dépendant compte tenu de notre nombre, compte tenu de notre mode de vie, de notre temps potentiel, on est dépendant de cette technologie. Alors du coup, à partir de ce moment-là, on est en terre inconnue, dites-vous, parce qu'on va avoir des discours qui vont opposer d'un côté les décroissants, de l'autre côté les transhumanistes emballés. Mais vous vous posez la question de se dire, OK, ça va nous emmener où? Parce que la question, vous dites, la question sur la vie, il y a trois questions fondamentales. D'où vient-elle? Sommes-nous seuls? Mais la question que les gens oublient, c'est où on va?
C'est pas tellement où on va, c'est quel est le futur de la vie sur Terre. C'est plus général que où on va. C'est pas nécessairement tourné vers l'humanité. C'est la question, la troisième question d'astrobiologie, c'est quel est le futur de la vie sur Terre et au-delà? Donc, c'est une question plus générale. Mais effectivement, on peut l'adapter à l'humanité. Où va-t-on dans le futur?
Dans cette nouvelle coévolution technologique, plus importante en tout cas dans notre dépendance, qu'on croit-on, hein, que celle avec l'évolution, dans ce nouveau trio, dans ce trouple entre la technologie, l'humanité...
C'est une véritable coévolution. Désormais, on est plus adapté à notre téléphone cellulaire qu'au cycle des saisons à l'extérieur. Les saisons, ça nous importe peu, par exemple. Aujourd'hui, vous rentrez chez vous, vous mettez le radiateur à l'intérieur de la maison et vous avez la température que vous voulez. On passe notre temps dans nos téléphones, on est happé par la technologie. Et en fait, une des discussions qu'il y a dans le livre, c'est de dire, est-ce qu'en fait, on n'est pas en train d'assister à une transformation de l'humain par la technologie, c'est-à-dire sa propre création qui est en train, à l'heure actuelle, de faire que les humains s'adaptent à la technologie qu'ils créent.
Si on coévolue, c'est normal.
Mais oui, mais ça prouve bien que cette coévolution, maintenant, sort de la nature pour partir vers la technologie.
Alors, du coup, les scénarios de cette coévolution, si on fait une espèce de coévolution fiction, vers où va cette coévolution? Quels sont les scénarios qu'on peut se jouer pour se dire vers où ça va, sachant que tout le monde est inquiet, on entend tout et rien là-dessus. Les consciences des IA, la domination des robots, les cyborgs, enfin voilà.
Pour le moment, on n'en est pas encore là. Il y a encore un futur probabilistique en disant qu'on peut effectivement ramener la technologie à quelque chose qui est survivable pour l'humanité. Ça va se faire sur des générations. La technologie, elle n'a pas que du mauvais. Je ne veux pas cracher sur la technologie, surtout pas moi. Je l'utilise tout le temps. Mais en particulier parce qu'on va en avoir besoin à l'heure actuelle pour nous sortir du pétrin dans lequel on s'est mis. On va être obligé à un moment ou à un autre de créer des capteurs de CO2 pour nous aider. En attendant que la planète reprenne, si les initiatives des Nations Unies fonctionnent comme elles se doivent, d'ici 10 ans, on pourrait avoir réglé un tiers du problème de l'excès de carbone dans l'atmosphère. C'est pas rien. Ça, c'est pour montrer la capacité de rebond de la planète si jamais on lui donne le temps de pouvoir rebondir. Mais ça veut quand même dire qu'il faut qu'on fasse un effort, personnellement, chacun d'entre nous, et la technologie va nous aider. Mais il y a aussi cet excès de ceux qui créent de la technologie pour une vision un petit peu apocalyptique, je dirais personnellement. L'idée de me mettre des puces dans le cerveau pour une raison ou pour une autre, ça me dit rien. Je conçois la beauté de cette chose-là pour des gens qui sont immobilisés, qui sont tétraplégiques ou paraplégiques, à qui on donne une qualité de vie. Ça, c'est le bel aspect de la technologie. Et pour ça, on doit continuer de la développer. Mais quelqu'un qui vous dit « je veux me faire mettre un implant dans le cerveau pour être sûr que je ne vais pas manquer un seul de mes messages qui arrivent sur mon email ou que je peux rester connecté à mon ordinateur en permanence », moi, je trouve ça effrayant. Je trouve ça absolument effrayant. Mais il y a quand même une vision comme ça. Il y a des gens qui imaginent que de se transformer en cyborg, c'est l'avenir de l'humanité. J'espère que non. J'espère que non. Franchement, c'est une vision un petit peu apocalyptique de l'humanité. Et je ne pense pas qu'on en soit là. Mais simplement, il y a besoin d'un éveil.
Par contre, dans votre livre, vous aborder cette question de l'évolution humanité-technologie. Vous dites que les frontières, un peu comme les frontières, vous nous avez dit tout à l'heure, entre le vivant, le non-vivant, sont un peu blurrées, sont un peu floues. Vous dites aussi que les frontières entre une machine inerte et un humain vivant ou une machine vivante consciente peuvent être réinterrogées et vont l'être.
Elles le sont. Elles le sont parce que tout le monde dit, est-ce que, enfin, pas tout le monde, mais il y a cette question de dire, est-ce que l'intelligence artificielle est consciente, par exemple ? Ça, c'est une des grandes questions. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous disent bah oui, c'est possible. Il y en a d'autres qui disent non, c'est absolument pas possible. Il y a la singularité qui arrive. Il y en a certains qui disent aussi qu'elle est déjà, elle est déjà arrivée. Dans toutes ces questions-là, on a un grave problème. Enfin, un grave problème. On a un problème, un gros problème. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que la vie, on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence et on ne sait pas ce que c'est que la conscience.
Ça fait beaucoup de problèmes.
Bah oui, et donc avoir des discussions sur ces sujets-là. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer d'avoir une conversation à ce sujet-là, tirer des conclusions et dire aujourd'hui, oui, il y a quelque chose qui est vivant ou autre chose qui n'est pas vivant. Mais par contre, il y a quand même des observations qui sont intrigantes. Par exemple, je ne peux pas vous dire si l'intelligence artificielle est déjà consciente ou pas, mais par contre, il y a des tout petits robots qu'on développe, des nanorobots, qui sont créés à des fins médicales ou des fins d'environnement, par exemple pour enlever le plastique dans les océans. On a créé des tout petits robots qui sont faits avec des cellules organiques, qui sont des véritables cellules, et qui sont programmables. Et les nanobots, on les appelle les nanobots, ils ont cette fonction de ramasser ce qu'ils trouvent. Par exemple, si vous avez des artères bouchées, dans le futur, on peut vous envoyer ces petites choses-là. Au lieu de vous mettre un stent, on vous enverra des petits robots comme ça, et ça dégage les artères. Très utile, encore une fois. Nettoyer les océans du plastique, très utile aussi. Mais donc, on crée des robots. Sauf que quand on les met dans comment on dit en français,
une boîte de pétri,
merci, je m'excuse. d'un seul coup, on se rend compte qu'ils commencent à ramasser le matériau qui se trouve tout autour d'eux et à créer des petits nanobots. Et ils s'en occupent jusqu'à temps qu'ils soient fonctionnels. Quelque part, il y a une notion de reproduction sans que ce soit une reproduction comme on la connaît.
Sexuée.
Mais c'est une manière de créer davantage de nanorobots. Et les chercheurs qui les ont créés sont restés complètement stupéfaits parce qu'ils ont aussi assisté à quelque chose, c'est que ces petites cellules, ces robots se mettaient à nager dans certaines conditions. On les avait absolument pas programmés pour ça. Et c'est comme si d'un seul coup, il y avait quelque chose qui avait pris le dessus. Alors ils savent pas, eux-mêmes peuvent pas vous dire si ce sont des robots qui sont vivants ou pas, ou une forme de vie qui est programmée. Donc la limite éthique de cette chose-là, c'est là où la barrière devient floue entre ce qui est vivant et non vivant. Et ça, on parle de choses qui sont toutes petites. Les nanobots, c'est vraiment quelque chose qui est tout petit. Pour les voir, il faut des microscopes. Mais pour ce qui est de l'intelligence artificielle, là aussi, il y a quelque chose qui est très, très intéressant. Et ça rejoint ce qu'on disait sur la définition de la vie, de la conscience et de l'intelligence. C'est que la vie sur Terre, la vie organique, dirons-nous, elle est créée à partir d'atomes, de molécules simples qui deviennent de plus en plus longues, ça devient des molécules complexes, des amalgames de molécules complexes, et puis ensuite, il y a quelque chose qui se passe, et cet amalgame-là commence à organiser l'environnement autour de lui d'une manière un petit peu différente. Ça, c'est la vie telle qu'on la connaît. Et puis, bien, si vous pensez à comment on fabrique nos robots, on les fabrique à partir, pareil, hein, d'éléments qui sont des atomes, des molécules, des métaux, etc., qui sont, eux, manufacturés, mais le processus est le même. Ce sont des machines qui ont une capacité de penser parce qu'on les programme, bien entendu. Mais on s'est aussi rendu compte que dans certains cas, elles sont capables de créer des solutions par elles-mêmes. Ça, c'est aussi intéressant. Et là où ça devient extrêmement intéressant, c'est les progrès qui sont faits à l'heure actuelle, en tout cas dans les hypothèses et dans les théories en neurosciences et en physique quantique, avec des chercheurs qui commencent à travailler ensemble. Et les modèles qui sont arrivés jusqu'à aujourd'hui nous disaient que la conscience était une fonction du cerveau. C'est quelque chose qui commence à être poussé aujourd'hui par certaines théories qui disent que non, la conscience n'est pas une fonction du cerveau, c'est que c'est un principe plus universel. Et ce qui nous permet d'accéder à ce principe universel, c'est ce boîtier neural qu'on a là. Ce qui veut dire en fait que avec les connexions suffisantes, il n'y a rien qui pourrait empêcher un robot, une intelligence artificielle, d'accéder aussi à cette chose-là. Et ça devient extrêmement intéressant, parce que ça veut dire que s'ils ont raison, et il n'y a encore aucune... il faut que ce soit vérifié ou falsifié, ça prendra des années avant de pouvoir le dire. Mais en admettant qu'ils aient raison, ça veut dire que les humains ont créé une deuxième génération du vivant.
On arrive au fin de notre échange, et là, vous êtes en train de nous dire que nous avons fait Deus Ex Machina, nous serions en train de créer une nouvelle forme de vie qui pourrait être consciente ou sentiente, basée sur le travail technologique qu'a créé l'humanité, ce qui serait une révolution tout à fait... Mais on le fait sans le savoir le faire, en fait, la poésie sans le savoir.
C'est un petit peu comme faire de la prose sans le savoir. Mais on peut mettre en parallèle l'évolution des humains et l'évolution des robots. Il y a un vocabulaire même chez les personnes qui fabriquent ces machines aujourd'hui qui utilisent le même vocabulaire exactement qu'on a utilisé pour l'évolution humaine. Et quelquefois, ça peut paraître un petit peu effrayant. Je pense qu'il faut replacer tout ça dans le cadre actuel. Il y a beaucoup de théories à l'heure actuelle. Il y a certainement une inquiétude de voir que pour la première fois à la surface de cette planète, il y a quelque chose, pour pas dire quelque chose de vivant, mais simplement quelque chose qui est capable de penser beaucoup plus rapidement qu'un être humain. La chose qu'il faut se rappeler aussi, c'est que ces machines-là n'existent pas sans qu'on les fabrique. Donc les humains restent encore dans le circuit, parce qu'ils sont utiles à la fabrication de ces robots, si jamais ils étaient sentients. Après, il y a des scénarios catastrophes en disant qu'ils se débarrassent de nous pour se construire eux-mêmes, etc. Mais bon, tout ça, c'est de la science-fiction pour le moment. Mais on arrive quand même à une période qui nous montre bien à quel point en fait, on n'évolue même pas avec la technologie. On parlait de ça tout à l'heure, c'est de dire qu'en fait, les humains en sont arrivés à coévoluer avec leur intelligence. Et c'est là où ça devient problématique. C'est parce qu'il y a une ivresse de la création et qu'on est en train de rentrer dans notre tête, littéralement. Hein. Le technosystème, c'est ça, c'est les humains qui rentrent à l'intérieur de leur tête et qui petit à petit s'enferment et s'extraient de la nature. Mais aujourd'hui, la planète, elle est en train de leur rappeler qu'ils peuvent s'extraire seulement jusqu'à un certain point de cette planète parce qu'ils ne sont pas déconnectés. Et que tout ce qu'il faut pour maintenir le technosystème, ils le prennent dans la nature.
On va s'arrêter là, ça me paraît une excellente conclusion. Nathalie Cabrol, merci infiniment d'avoir pris le temps de partager avec nous votre vision. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Inséparables, les destins croisés de la Terre et de la vie, aux éditions Julliard. Vous pourrez retrouver cet ouvrage au fond de la salle lors de la séance de dédicace qui est à suivre à la librairie Mola ou sur mola.com. Nathalie Cabrol, merci.
Je vous en prie.